Monsieur, bonjour. Ils ont quitté leur famille, leur travail, leur maison pour chercher refuge dans nos pays dits démocratiques. Mais l'accueil que nous leur réservons n'est pas toujours chaleureux, loin s'en faut. Aujourd'hui, on va parler des demandeurs d'asile avec deux invités. Tout d'abord, honorodame Fred Mahouet, qui est directrice du CIRE. Bonjour Fred.
Bonjour.
Et Adenilson Pereira, qui est volontaire à l'association Abrasso, dont nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Alors je me tourne d'abord vers Fred Mahouet. Donc le CIRE, pouvez-vous nous rappeler en deux mots ce que c'est ?
Alors le CIRE est une association qui a été créée en 1954. CIRE, c'est Coordination Initiative pour Réfugiés Étrangers. Et donc on est à la fois coupole politique, c'est-à-dire le lieu où toutes les grandes organisations qui s'occupent des questions de migrants, de réfugiés, de sans-papiers, etc., se retrouvent. Les grandes organisations francophones, comme les syndicats, la Croix-Rouge, Amnesty, mais aussi Caritas, le Centre social protestant, Solidarité socialiste, etc. Et ils délibèrent ensemble de la ligne commune qu'ils souhaitent adopter en réaction aux politiques menées et aussi aux propositions politiques qu'ils souhaitent faire. Et le CIRE, c'est aussi toute une série de services. Donc on est à la fois service d'accueil des demandeurs d'asile. Donc on est un des grands systèmes d'accueil des demandeurs d'asile. On a 1050 places qu'on organise avec 4 de nos membres. Et on a aussi une école de français langue étrangère qui accueille 350 étrangers par an qui viennent.
Déjà une grande structure. Là,
ouais. Qui viennent apprendre le français. Et on a aussi d'autres services comme équivalence des diplômes, services logement, etc., qui cherchent des solutions avec les étrangers. En séjour précaire récemment arrivé.
Alors les demandeurs d'asile, ils reviennent régulièrement sur le devant de l'actualité. Récemment, on en a parlé suite à l'ouverture d'un nouveau centre fermé qui s'appelle le Caricol. Alors pourquoi est-ce qu'on a ouvert ce centre ? Il n'y a plus assez de place ailleurs ?
Alors on a ouvert ce centre parce que deux centres fermés qui se trouvaient à l'aéroport même, de Zaventem, étaient totalement vétustes et insalubres. Et comme on l'a dit dans le communiqué de presse, ils ont rénové les murs, changé les murs, mais ils n'ont évidemment rien changé à l'indignité de l'enfermement, puisqu'effectivement, dans ces deux centres, qui étaient des containers qui se trouvaient à l'aéroport, sont enfermés à la fois des demandeurs d'asile qui arrivent à la frontière par l'aéroport et qui n'ont pas d'autorisation de pénétrer sur le territoire, donc qui n'ont pas de visa. Et on les y met le temps de l'examen de leur procédure d'asile. Et on y met aussi des étrangers sans papier en vue de leur renvoi. Donc généralement, ils y transitent pour une brève période.
Et donc, cette situation d'enfermer des personnes qui n'ont commis aucun délit, est-ce que ce n'est pas en contradiction finalement avec les engagements de la Belgique en matière de droits humains ?
Alors c'est compliqué. On est toute une série à trouver qu'effectivement c'est totalement indigne et disproportionné, puisque ces gens sont en fait en infraction administrative. Ils n'ont pas les papiers qu'il faut, mais est-ce que ça vaut privation de liberté ? C'est quand même très très grave de décider de priver de liberté les gens. Mais donc la Belgique n'est pas malheureusement en porte-à-faux. On peut le dire qu'elle l'est sur le plan éthique, mais sur le plan du droit, elle ne l'est pas, puisque tous les pays développés, malheureusement, ont les mêmes pratiques, tous enferment. Les sans-papiers et toute une série d'entre eux enferment les demandeurs d'asile qui arrivent sans titre de séjour. Donc c'est une pratique malheureusement très répandue et coulée d'ailleurs dans une directive au niveau européen qui s'appelle la directive retour et qui permet aux pays européens, membres de l'Union européenne, d'enfermer les personnes, les migrants, jusqu'à 18 mois. 18 mois, donc c'est vraiment énorme.
Et donc, ces gens qui arrivent chez nous, ils quittent des pays pour un tas de raisons, j'imagine la guerre, les persécutions, etc. Est-ce qu'il y a une liste, je suppose, de critères qui font qu'on peut accorder l'asile éventuellement à des personnes ? C'est pas seulement la guerre, c'est pas seulement les persécutions politiques, il y a d'autres choses aussi ?
Alors, il y a un texte, qui est un texte de référence depuis 1951, qui est la Convention de Genève, et qui donc est ratifié par toute une série de pays, dans de nombreux pays dans le monde, et qui dit que on doit donner ce statut de réfugié, donc on doit accorder protection à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée et qui ne peut se réclamer de la protection de son pays, de son État, en raison de son appartenance. Alors là, les motifs sont larges en fait. On retient toujours la figure du réfugié politique, mais c'est une des figures. Donc les gens qui doivent quitter pour raisons d'opinion politique, d'actes politiques qu'ils ont posés et qui sont persécutés sur cette base-là, c'est une figure, mais il y en a toute une série d'autres. C'est aussi l'appartenance à un groupe social, à un groupe ethnique, à une religion, le fait d'être homosexuel dans certains pays, le fait de vouloir fuir l'excision dans d'autres pays. Donc il y a...
Le mariage forcé, ça rentre aussi dans les critères ?
Le mariage forcé, c'est une bonne question. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas capable de vous le dire avec certitude, mais peut-être. Ce qu'il y a, c'est que donc, la Convention de Genève est un espèce de cadre, une convention cadre, et donc le CGRA, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, qui est l'instance qui examine les demandes d'asile en Belgique, délibère sur chaque dossier, et donc examine les craintes de persécution et donne ou pas l'asile sur cette base-là, et il y a un autre motif de protection, une autre convention, un autre texte qui est et une autre mesure qui est la protection subsidiaire, et donc qui est une mesure moins centrée sur la personne et qui est centrée sur des situations. Par exemple, les personnes qui vivent dans des pays et dans des zones du monde où il y a des conflits très très importants et où il y a une très très haute insécurité de vie peuvent se réclamer de cette situation pour demander la protection subsidiaire et l'obtenir. Par exemple, les Afghans, les Irakiens, une série d'entre eux obtiennent la protection subsidiaire.
Merci. Adé Nilsson, bon, voilà, on vous redit bonjour. Vous êtes de l'association Abrasso, qui est une des associations soutenues par Vivre Ensemble. Alors vous, vous agissez vraiment sur le terrain, dans la ville de Bruxelles. Vous avez, il y a quelques années, découvert les besoins énormes chez vos compatriotes qui arrivaient en Belgique. Alors quels sont ces besoins et qu'est-ce que vous faites en fait pour y remédier ?
Bon, en effet, Abrasso, ça a été créé en 2006. Donc voilà, comme le propre nom a dit, c'est une association d'aide et d'information aux migrants en situation régulière et précaire. Donc c'est là-dessus qu'on s'est basé à partir de la vie qu'on constatait des migrants en situation régulière, surtout dans la région de Saint-Gilles, Anderlecht. Bref, donc c'est là qu'on constatait et quels sont les besoins, donc plutôt d'informations au départ. Donc les formations concernant le logement, concernant les propres droits des migrants. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler et à partir de là qu'on a créé l'association.
Ok, voilà, on va déjà faire une première pause musicale avec Maxime Le Forestier et l'incontournable Né quelque part.
On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Voilà, Maxime Le Forestier, c'était en 1988 déjà. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. C'est pas toujours si facile. On le voit aujourd'hui avec nos invités Fred Maouet du CIRÉ et Adé Nilsson Pereira de l'association Abrasso. Alors, Adé Nilsson, donc c'est ces migrants qui arrivent ici en Belgique, qui sont dans des situations pas faciles au niveau économique, au niveau logement. Ils vivent une grande précarité en général.
Tout à fait. Surtout parce que quand ils arrivent ici, ils ne savent pas où chercher. Le logement, évidemment, quelles informations, ou chercher les informations pour savoir quel genre de logement, à qui s'adresser. Donc, évidemment, ils cherchent des manières où ils peuvent et ils tombent toujours sur des logements insalubres. Mm-hmm. Et aussi sur des propriétaires qui ne sont pas très honnêtes là-dessous. Donc, avec des situations comme ça, l'Abrasso travaille beaucoup, reçoit beaucoup de gens qui viennent pour demander des informations, pour demander qu'est-ce que peuvent faire dans un cas, dans une situation pareille, qu'est-ce que peuvent faire pour signer un bail, par exemple.
Oui, parce qu'ils ne maîtrisent pas toujours le français non plus quand ils arrivent, je suppose.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et il y a cette difficulté-là aussi. Donc, la difficulté de la langue, c'est la première barrière lorsqu'on arrive sur le terrain belge, par exemple.
Et donc, Abrasso joue un rôle d'information, mais n'a pas nécessairement les moyens de leur donner de quoi vivre. C'est la solidarité qui joue entre les migrants.
C'est la solidarité qui joue. Et Abrasso, c'est information. On n'a pas, comme vous dites, on n'a pas les moyens.
Vous êtes tous bénévoles, hein, on va
tout
le signaler.
À fait. Uh-huh, oui. Dès la coordinatrice jusqu'à la personne qui vient pour aider de temps en temps, sont tout à fait
bénévoles.
Faites tout à fait de bénévolat. Et pour le moment, on a deux permanences par semaine. Donc, plutôt vous dire, lundi et jeudi, pendant toute la journée, évidemment. Et pour des points spécifiques, on fait des séances d'information, comme par exemple sur la question d'emploi, sur la question de régularisation, par exemple. Donc alors là, quand on constate que les besoins, la demande d'information, c'est assez grande, que les gens vient plus souvent, alors là, on organise une séance d'information pour qu'on puisse.
Est-ce que les Brésiliens qui débarquent en Belgique sont surpris par ce qu'ils y trouvent, ce qu'ils trouvent à Bruxelles? Est-ce qu'ils s'attendaient à avoir un pays riche où il n'y a pas de pauvreté, pas de misère?
La plupart de ceux qui viennent pour la première fois, évidemment qu'ils sont surpris parce que ils sont là-bas, ils ne savent pas comment ici, ont dans leur tête qu'ils vont arriver, vont trouver de facile de travail, vont faire de l'argent facile. Il y a ceux qui vendent ce qu'ils ont là-bas pour payer le billet. Évidemment, quand ils arrivent ici, ils voient que la situation, c'est tout à fait différente auquel ils avaient rêvé.
Ouais. C'est pas facile alors. Fred Maouet, on quitte son pays, on l'a dit, pour des raisons qui sont reconnues par la Convention de Genève, la guerre, les persécutions politiques, les persécutions liées à l'orientation sexuelle notamment. Mais il y en a d'autres, on sait bien, c'est la crise, les pays pauvres la vivent encore plus durement que nous. Et donc toutes ces personnes qui arrivent chez nous simplement pour survivre parce qu'elles n'ont plus de quoi vivre chez elles, comment est-ce qu'elles sont accueillies ici? Elles sont d'office refoulées?
Alors, elles ont d'abord le plus grand mal à entrer. Et donc, généralement, les gens qui n'entrent pas par l'asile rentrent soit pour faire des études, soit essayent de rentrer pour travailler, mais ce n'est pas simple d'obtenir un permis B. Il faut vraiment qu'il y ait une demande spécifique d'un patron qui demande ce travailleur-là. Sinon, rentrent avec un visa touristique et puis restent. Ou alors font des chemins très, très longs, très, très compliqués par voie terrestre. Mais donc, non, il y a très, très peu de perspectives, très, très peu de perspectives de sortie de clandestinité. Il y a des régularisations. Il y en a tout au long des années. Au moment des opérations de régularisation, c'est ça que les gens retiennent le plus et voient le plus. Alors, on ouvre la porte plus largement sur des critères bien précis. Sinon, la porte de la régularisation existe, mais elle concerne 6, 7, 8 000 personnes par an, alors que le nombre de personnes qui sont là et qui sont dans la clandestinité, dans des situations extrêmement précaires, à essayer de vivre, survivre, il y en a, on les évalue à 100, 150 000 en Belgique, et il y en a partout ailleurs en Europe aussi.
Oui, parce qu'on voit souvent les migrants, on dit, ils viennent profiter, ils viennent profiter de l'allocation sociale, etc. Mais la vie qu'ils mènent ici est vraiment très très dure, à tous les niveaux, du logement, de la santé. Ils sont dans une misère extrême souvent.
Bien sûr, c'est là, évident que les... Et quand les gens viennent, je ne pense pas une seule seconde qu'ils viennent pour profiter de la sécurité sociale, comme l'a très bien dit monsieur, ils viennent avec l'espoir d'y trouver du travail et de pouvoir y monnayer leur force de travail, mais ça c'est quand même une espérance extrêmement légitime de tout citoyen partout dans le monde. Mmh. Et pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas monnayer leur force de travail dignement dans leur pays? Je trouve que ça c'est la vraie question. Et au CIRÉ, on a l'habitude de dire que les migrations sont le symptôme des fractures du monde et que c'est pas aux symptômes qu'il faut s'attaquer, c'est aux fractures. Et en ce qu'elles ne sont pas le fruit du hasard, mais le fruit de choix politiques et économiques qui ont été faits et qui doivent être défaits. Et c'est ça qui pousse les gens sur les routes. Parce que derrière les questions, même les besoins de protection, derrière les besoins de protection, il y a très très souvent des questions de politique économique qui se jouent. Les pays dans lesquels on prend les matières premières et dans lesquels il y a de gros enjeux autour de l'exploitation des matières premières, je veux dire, c'est ça qui met des pays en guerre. Hein.
Les conflits, par exemple. C'est à notre profit qu'on les exploite.
Évidemment. Et dans les conflits, par exemple, dans l'Est du Congo, c'est tout à fait évident. Que ça tourne autour de ces questions-là.
Mmh. Oui, voilà, c'est des enjeux très, très vastes, évidemment.
Hein. Absolument.
C'est difficile de refaire le monde, mais il faut agir des deux côtés, quoi, au local, et puis essayer d'avoir des influences politiques aussi. Voilà, c'est déjà l'heure de notre deuxième pause musicale. On va écouter une très belle chanson de Francis Cabrel qui s'appelle « African Tour ».
Déjà nos villages s'éloignent. Quelques fantômes m'accompagnent. Y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inch'Allah. On a de mauvaises chaussures. L'argent cousu dans nos doublures. Des passeurs doivent nous attendre. Le peu qu'on a, ils vont le prendre. Et après, est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien. Sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien. Pas de salon, pas de cuisine. Les enfants mâchent des racines. Juste un carré de poussière, un matelas jeté par terre. Au-dessus, Inch'Allah. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres. Tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi. Sauf que chez moi y a rien. Je n'en sais rien. On verra bien. je veux bien, sauf que chez moi. La moitié d'un échafaudage.
Voilà, African Tour avec Francis Cabrel. On revient à nos deux invités, Fred Maouet du Ciré et Adenilson Pereira de l'ASB à la Brasso. Alors, les Brésiliens, puisque ce sont principalement des Brésiliens que vous rencontrez, qui viennent en Belgique, est-ce qu'ils viennent avec un projet à long terme ou bien est-ce qu'ils viennent dans l'espoir de gagner un peu d'argent puis de rentrer chez eux et comment ça se passe, ce retour ou ce non-retour?
Je dois vous dire que la plupart qui viennent, vient avec l'intérêt de rester pendant quelques temps. Je peux dire facilement 5, 10 ans peut-être. Et lorsqu'ils acquièrent un capital, ils rentrent chez eux. Évidemment qu'il y a ceux qui restent, ceux qui viennent, mais le pourcentage, je ne sais pas vous dire en chiffre maintenant, mais c'est si peu de ceux qui veulent vraiment rester. Parce qu'on veut juste acheter sa maison, acheter sa voiture, enfin, améliorer leurs conditions de vie où ils vivent au Brésil.
Et ce n'est pas facile, parce que, comme vous le disiez, il y en a qui vendent ce qu'ils ont là-bas chez eux pour venir ici en Belgique. Et puis, ouais, parfois, ils ne font pas fortune.
Bien entendu, c'est vrai qu'il y a pas mal qui voient leur rêve être cassé, parce qu'on vend, comme je disais tout à l'heure, on vend leurs motos, on vend leurs voitures. Bon, parfois, on prend de l'argent pour venir. Et quand on arrive ici, il n'a même pas de quoi acheter leur billet de retour.
Ouais.
Donc, il y a ceux qui se trouvent vraiment coincés, qui n'arrivent pas à trouver de quoi acheter leur billet de retour, comment payer leur dette au Brésil qu'ils ont fait pour venir ici, par exemple.
Fred Maouet, quand on vous dit, et vous devez l'entendre souvent, oui, mais on est en crise ici aussi, on ne peut pas, l'expression consacrée, accueillir toute la misère du monde. Qu'est-ce que vous répondez?
Je réponds d'abord que, contrairement à ce qu'on pense, Michel Rocard n'a pas juste dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il a dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais chaque pays doit en prendre fidèlement sa part. Et quand vous voyez la répartition des migrations dans le monde, ce n'est pas du tout sûr que l'Europe en prenne fidèlement sa part. Et au Ciré, on rajoute, si on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il faut arrêter de la provoquer. Parce que c'est clair que ce qui provoque l'exode, ce qui provoque le fait que les gens quittent tout ce qu'ils aiment, tout ce qui leur est cher, leur pays, leur famille, leurs amis, pour venir se perdre dans nos contrées peu hospitalières sur certains aspects.
C'est pas pour rien vous appelez le Ciré, n'est-ce pas?
C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent faire vivre leur famille dignement, avec un accès à la santé, avec un accès à des écoles un peu correctes, etc., eh bien, il faut émigrer. Et donc, je rappelle juste, émigrer, et ce qu'ils veulent, c'est monnayer correctement, dignement, justement, leur force de travail, point. Après ça, il y a toutes les situations dans lesquelles ces gens se retrouvent coincés, mais au départ, c'est ça.
Oui, quand ils migrent, souvent, c'est une séparation familiale aussi. Évidemment. Toute la famille ne migre pas d'un coup.
Évidemment.
Ça fait parfois des grosses difficultés, à la fois pour celui qui se retrouve ici tout seul et puis pour ceux qui sont restés là-bas. Donc, c'est pas facile. Vous parlez de situation économique globale. Je voudrais juste faire une petite annonce au sujet d'une association qui vous est chère, qui s'appelle le Réseau pour la justice fiscale. Le 31 mai, ce sera le jour de la justice fiscale. Et vous êtes très, très engagé dans ce réseau. Je pense à titre personnel, je ne sais pas si le Ciré en est
membre. À titre militant, non?
À titre militant, voilà. Alors expliquez-nous, quel est le lien, bon, on le perçoit un petit peu, mais entre la fiscalité et puis les migrations.
Mais donc la raison pour laquelle je me suis engagée à ATTAC, c'est que je me suis assez rapidement rendu compte que les questions migratoires étaient des questions vraiment complexes et qu'il fallait se battre sur chaque segment de la politique migratoire pour qu'elle soit plus digne, plus correcte, moins dure, moins injuste, mais que globalement, ça n'admet pas de solution si on n'attaque pas justement l'autre côté de l'équation qui la provoque, à savoir les questions de politique économique. Et donc, s'attaque justement à ces questions-là. Et donc, la fiscalité, c'est une dimension importante des politiques économiques. Une fiscalité juste permet des États justes qui traitent justement leurs citoyens et qui assurent les fonctions collectives. Et donc, ce que va faire le Réseau Justice Fiscale le 31 mai, c'est rappeler que c'est fondamental de payer ses impôts, mais que c'est fondamental que tout le monde paye un impôt juste. Or, en Belgique, il y a ceux qui payent la plus grosse partie de l'impôt, c'est les travailleurs. Et c'est les travailleurs avec des salaires pas mirobolants, parce qu'avec les gros, aux gros salaires, on fait des cadeaux. Hein. Mm-hmm. À un certain moment, l'impôt est tout à fait plafonné. Et les autres catégories, les gens riches, les gens qui ont plein de propriétés immobilières, et les entreprises, et derrière les entreprises, évidemment, de nouveau, les gens riches qui touchent les dividendes, etc., eh bien, ceux-là sont trop peu, et à certains moments, et sur certaines dimensions, pas du tout imposés. Mm-hmm. Et ça nous paraît inacceptable.
Voilà, donc c'est sûr que vous serez le 31 mai dans les gares, si votre
agenda absolument, de 7 à 9 heures, voilà, à la gare du Nord, c'est bloqué déjà dans
voilà,
les agendas.
Voilà, ben on s'y retrouvera.
Venez-y.
Voilà, un grand merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur RCF. Merci de nous avoir écoutés.
Merci.
Merci.